France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, François Geffrier.
Bonjour et bienvenue, c'est le 13-14 de France Inter. Mort pour la France, l'adjudant-chef Arnaud Frion, tué par un drone de conception iranienne hier soir en Irak. Il faisait partie du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, en Isère, où nous sommes en direct dans un instant. Le colonel François-Xavier de la Chesnaye, le chef de corps de son bataillon, a rendu hommage à un militaire expérimenté et conscient du danger.
Il est mort dans l'exercice de son métier, il est mort en soldat, en combattant. On le choisit délibérément, on le sait, on ne le souhaite pas. Pour autant, on sait que ça fait aussi partie du métier et Arnaud le savait.
La France a-t-elle été délibérément visée dans cette attaque? Quelle est la mission de nos soldats présents en Irak depuis plusieurs années? Est-ce que la posture défensive définie par Emmanuel Macron tient toujours si elle ne tient pas aux yeux de groupes qui visent les militaires tricolores? Autant de questions que nous abordons avec nos experts et invités. À la une également, l'Ukraine ne veut pas être oubliée des urgences du moment. C'est le message du président Volodymyr Zelensky en visite à Paris depuis ce matin. Il sera l'invité exceptionnel de France Inter ce soir. Émission spéciale de 18h à 20h. Benjamin Duhamel, dans ce journal, vient nous décrire les coulisses de cette interview à venir et les questions prioritaires qu'il posera au président ukrainien. Au sommaire aussi, le pétrole russe voit une partie de ses sanctions suspendues par les États-Unis. Des pays se précipitent et Moscou salive déjà de vendre enfin son or noir au prix du marché, d'autant que les cours ont bondi. Les municipales, Lise Rosweil, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez à l'instant sur les traces de la candidate d'extrême droite, Sarah Knafo, à Paris. Elle rêve depuis le début de grignoter un bout de l'électorat de Rachida Dati.
Et jusqu'au bout, elle se présente comme le vote utile, la seule qui propose l'alliance à droite pour remporter Paris. Elle met la pression sur sa concurrente Rachida Dati.
On vous retrouve dans ce journal, dans une demi-heure, la culture à hauteur de mairie, justement, puisqu'on vote ce dimanche. Qu'a fait votre maire ces 6 dernières années pour la littérature, le théâtre, la musique, le cinéma? Y a-t-il ne serait-ce qu'une ligne qui en parle dans les professions de foi que vous avez reçues ces derniers jours? Vous pouvez nous écrire en envoyant un WhatsApp au 01 45 24 7000 ou via l'application Radio France. 13h45, notre feuilleton. Dernier épisode avec Luca, éleveur de poules d'or. 13h50, c'est la France. Un prêtre qui fait des confessions sur un télésiège. Autrement dit, votre corps s'élève, prend de l'altitude, en même temps que votre âme s'allège. Juste avant 14h, la chronique C'est une chanson, une reprise de Everybody's Got to Learn Sometime par Beck. C'est la chanteuse Pyjama qui l'a demandé, fascinée quand elle l'a découverte dans un film alors qu'elle avait 18 ans.
Un film qui parle d'une histoire d'amour un peu tragique. Les protagonistes essaient de s'oublier, mais en fait ils s'aiment trop. Et puis c'est une histoire un peu toxique, mais ils veulent quand même réussir et à 18 ans, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime.
Pyjama en trois mots et une chanson en trois minutes à la fin de ce 13-14.
France Inter.
On dit parfois que toute une commune est en deuil quand l'un des siens disparaît et c'est véritablement le cas de Vars en Isère puisque les militaires et leurs familles représentent 4 habitants sur 10 dans cette commune qui héberge la brigade d'infanterie de montagne. L'adjudant-chef Arnaud Frion était de ceux-là. Il a été tué il y a quelques heures à 4000 km de chez lui en Irak par un drone Shahed. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour François.
Vous êtes à Vars pour France Inter. Autour de vous, on a déjà commencé à lui rendre hommage.
Oui, sur la façade d'un bâtiment années 60, ces deux panneaux, 7e BCA avec des chasseurs alpins qui cheminent dans la neige. Sur l'autre, la devise du bataillon, de fer et d'acier. À l'intérieur, deux photos de l'adjudant-chef de 42 ans, l'une avec son uniforme et ses décorations, l'autre avec sa tenue de combat. Et c'est le colonel François-Xavier de la Chesnaye, chef de corps, qui lui rend hommage.
Arnaud, c'est vraiment ce qu'on produit de meilleur dans l'armée de terre française. Voilà. Donc c'est quelqu'un que je remarquais par son humilité. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus compétent que la majorité des chasseurs que j'ai au bataillon, avec beaucoup d'expérience, une dizaine d'opérations à son actif, 4 citations. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment expérimenté. Il n'y a pas beaucoup mieux que lui pour savoir exactement ce qu'est le métier et l'humilité que finalement ça requiert assez naturellement.
Le 7e BCA, c'est 4000 hommes regroupés ici, au sud de Grenoble, avec leurs familles. Ils font vivre en partie cette ville de 9000 habitants, dont José, un ancien, très en colère.
Fallait s'y attendre. Moi, je suis agacé par cette politique, très très agacé. Je vois pas de quoi on se mêle. Un coup, on est en guerre avec l'Ukraine, un coup, en guerre avec... c'est les gamins qui ramassent, c'est pas le président qui va aller au casse-pipe. Hein. Moi, j'y croise. Si t'as un gars de la famille ou que tu connais qui part, c'est quand même triste. C'est cher payé un métier comme ça.
Pour l'instant, l'hommage à la caserne n'est pas encore planifié. Trop tôt, nous dit-on. Cet après-midi, la mairie de Claix, où habitait Arnaud Frion, mettra ses drapeaux en berne.
Merci Christophe Vincent. Alors jusqu'à présent, dans cette guerre au Moyen-Orient commencée il y a tout juste 2 semaines, la France n'avait pas connu de pertes. Mais le dernier soldat français tué en opération extérieure, c'était déjà en Irak il y a 2 ans et demi. Bonjour Éric Bigala.
Bonjour.
Quelle est la mission des soldats français en Irak ?
Alors le contingent français en Irak est installé là depuis 2014, dans le cadre de l'opération Inherent Resolve, la lutte contre l'État islamique. Alors, aujourd'hui, la mission de ces soldats a évolué et elle est plurielle. Il y a d'abord l'appui aux forces armées irakiennes dans leur lutte contre Daesh, qui se poursuit parce que des cellules de l'État islamique sont toujours actives dans le désert irakien. Et c'est d'ailleurs au cours d'un accrochage sérieux avec les djihadistes de Daesh que le sergent-chef Nicolas Frazier avait été tué en 2023. Ces missions d'appui sont d'ordinaire dévolues aux soldats des forces spéciales françaises. Il y a ensuite des missions de formation au profit des forces armées irakiennes. Maniement des armes lourdes, déminage, formation au combat en zone urbaine. Pour ces missions-là, entre 150 et 200 militaires français sont déployés. Au moins 5 bataillons de l'armée irakienne, à peu près 2000 hommes environ, ont été ainsi formés par la France depuis 2023. Autre mission de formation, à peu près du même ordre, au profit des Peshmerga kurdes irakiens. Et c'est semble-t-il ce à quoi a été affecté l'adjudant-chef Frion. Il était cantonné ces jours-ci dans une base des Peshmerga kurdes, près du petit village de Malakara, à une 40aine de kilomètres au sud-ouest d'Erbil, principale agglomération du Kurdistan irakien.
Éric Bégala, merci, de la rédaction internationale de Radio France. C'est donc un drone Shahed qui a tué Arnaud Frion, ce soldat français. Rappelons que les drones Shahed ont été développés par l'Iran, qui les fabrique à faible coût. La Russie fabrique désormais ses propres Shahed qu'elle utilise dans la guerre en Ukraine. Bonjour Général Olivier Kempf.
Bonjour.
Expert en stratégie militaire, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, est-ce qu'on peut avoir la certitude aujourd'hui à 13h que la France a été délibérément visée par cette frappe ?
Alors ça, oui, que la France a été délibérément visée, c'est très probable. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la revendication d'un groupe peu connu, qui dépendrait peut-être d'une milice irakienne, mais à caractère chiite. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est oui, on a été visé. Le communiqué qui a été fait est un peu bizarre, puisqu'il parle du Charles de Gaulle qui serait dans le Golfe, alors que bien évidemment, il est en Méditerranée. Mmh. C'est pour ça que l'origine de l'attaque est encore sujette à examen, à débat, à analyse. On ne sait pas qui est le vrai commanditaire, si ça vient de Téhéran ou si c'est une initiative locale. Mais en revanche, que cette base a été ciblée, et avec notamment, votre journaliste l'a rappelé, la formation des Peshmerga kurdes, oui, ça c'est maintenant sûr.
Alors, vous restez avec nous, Olivier Kempf. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de France Inter en Turquie. Olivier Kempf, commencez à parler de ce groupe qui a fait cette revendication. Le groupe Achab Al-Kaf annonce qu'il prend pour cible les intérêts français dans la région. Il existe comme celui-ci plusieurs groupes en Irak qui sont des soutiens de l'Iran. Que sait-on d'eux ?
Alors déjà, cette milice Achab Al-Kaf qui menace directement la France, elle existe depuis au moins 2019. Elle a en tout cas révélé son existence à ce moment-là, après plusieurs frappes israéliennes contre des groupes islamistes en Irak. C'est un groupe qui est connu pour sa radicalité dans la nébuleuse de l'axe dit de la résistance. Vous savez, cette myriade de mouvements supplétifs du régime islamique, auquel s'est d'ailleurs adressé Mojtaba Khamenei hier. Il les a remerciés pour leur soutien et appelé à étendre leurs attaques. Et l'Irak abrite nombre de ces groupes armés hostiles aux États-Unis et à Israël et soutien du régime islamique, quelques 80 organisations miliciennes chiites, soit 235 000 combattants qui répondent directement aux ordres du guide suprême. C'est un cocktail explosif en Irak, puisque le pays abrite dans le même temps plusieurs bases militaires américaines et dans le nord ses Peshmerga kurdes, opposants au régime islamique et entraînés par la coalition anti-djihadiste. Ce sont donc autant de cibles pour les groupes armés irakiens.
Merci Marie-Pierre Véraud, en ligne depuis Istanbul pour France Inter. Général Olivier Kempf, on a parlé de la posture défensive théorisée par le président Emmanuel Macron. Est-ce qu'on ne voit pas là la limite du concept, en tout cas aux yeux des groupes locaux qui nous attaquent ?
Et tout le problème, et le discours français avait été mesuré, sobre et assez habile, c'est-à-dire que grand 1, on allait en Méditerranée orientale pour défendre un allié européen, Chypre, Quentin. Grand 2, on était là aussi pour aider les Libanais et participer à d'éventuelles évacuations de ressortissants. Et Grand 3, de façon un peu plus lointaine et plus déclaratoire, on était en appui de nos alliés et partenaires du Golfe. Cela étant, concrètement, sur le terrain, on ne s'était pas engagé. Tout le calcul français est jusqu'à présent d'essayer de séparer les variables, de séparer les théâtres. Et c'est pour ça que cette énumération que je vous fais a son sens, elle est cohérente, elle est logique. Or, l'Irak, on y était, mais on y est principalement contre l'État islamique. Et donc, nous, notre intérêt était bien évidemment de ne pas relier les choses. C'est aussi pour ça que l'origine, et votre journaliste, votre correspondante l'a bien rappelé, ces myriades de groupes, certes, ils sont sur une autorité lointaine de Téhéran, mais il y a des calculs locaux, il y a des, c'est quand même très décentralisé, des initiatives locales, et c'est pour ça que on se pose encore la question, est-ce que l'Iran veut absolument mouiller tout l'Irak dans la guerre ou pas. Souvenez-vous, il y a quelques jours, les Américains avaient dit « Tiens, on va utiliser les Kurdes irakiens et iraniens pour ouvrir un nouveau front en Iran ». Et puis ça ne s'est pas fait parce que les Kurdes irakiens, justement, ont bien compris que c'était un piège et que ce n'est pas leur intérêt. C'est pour ça que, comme ça se passe au Kurdistan irakien, la question que tout le monde espère, c'est de continuer à séparer les variables et à ne pas essayer d'étendre la guerre actuellement entre l'Iran et les Américains à tout le Golfe dans son entier.
En quelques mots, une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que ce qui s'est passé, la mort de ce soldat français, c'est de nature à questionner l'engagement français dans sa forme, sur place, dans son organisation ?
Oh, il est beaucoup trop tôt pour le dire. On voit bien que pour l'instant, il y a une grande prudence de la part des autorités. On organise le rapatriement des blessés. Ça, c'est la première chose à faire. Et à l'état-major, tous les planificateurs doivent être en train de regarder toutes les options. Je pense, malgré tout, qu'on va rester sur un pied assez prudent. Pour l'instant, mais là, c'est Olivier Kempf qui parle, c'est pas l'état-major.
Merci, général Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, d'avoir été en direct sur France Inter. Ce matin, on signale de nouvelles frappes israéliennes sur la capitale iranienne Téhéran. Un défilé de soutien aux Palestiniens s'y tenait. Le chef du Conseil suprême de sécurité iranien, Ali Larijani, participait à ce défilé, selon la télévision d'État iranienne. Signalons aussi, du côté du Liban, de nouvelles frappes d'Israël dans le sud. Un pont stratégique sur le fleuve Litani, un point de passage important pour le Hezbollah a été détruit. Il y a 8 morts aussi dans une frappe contre un immeuble. Israël menace le Liban de devoir payer un prix croissant en destruction à cause du Hezbollah. Et ce matin, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé pour une visite surprise au Liban. Il est à Beyrouth en geste de solidarité, explique-t-il. La guerre nous fait toujours scruter le prix du baril de pétrole. Il semble se stabiliser autour de la barre des 100 dollars pour le Brent, celui qui nous concerne en Europe. 100 dollars alors qu'on était à 70 avant la guerre, autant dire que la hausse des carburants risque de s'ancrer un peu. Parmi les solutions à hauteur d'automobilistes pour faire baisser la facture, il y a le covoiturage. Un vrai déclic est observé en ce moment puisque le nombre de nouveaux inscrits a augmenté de 20% par exemple sur la plateforme Caros. Lucie Amadieu, vous les avez rencontrés, ces nouveaux covoitureurs, sur l'aire de Longvilliers dans les Yvelines.
Sa voiture, Manon a dû la laisser au garage chez ses parents. Impossible de rentrer à Tours avec à cause des prix du carburant.
Je l'ai pris pour venir hier, mais je remets pas le plan. On attend que ça descende.
Elle prend un covoiturage pour économiser sur son trajet de 180 km.
Péage plus essence en étant toute seule, ça vaut pas le coup. C'est vraiment trop cher même. C'est impossible. Enfin, je suis étudiante, donc. Alors que là, mon Blablacar, j'ai payé 15 euros. Donc c'est même pas le prix du péage.
Après quelques minutes d'attente, le conducteur arrive avec deux autres passagers.
Bonjour. Antonin, enchanté. J'ai peut-être une place dans le... là.
Antonin n'est pas le seul à proposer des trajets en ce moment.
Beaucoup plus de covoiturage parce qu'aujourd'hui, avec le coût de l'essence, c'est hyper avantageux de pouvoir faire du covoiturage.
Sur le parking, Mathilde attend avec sa valise. Cette vendeuse de prêt-à-porter réfléchit à son prochain voyage en Bretagne dans un mois.
Si les prix n'ont toujours pas bougé, je vais mettre le trajet sur Blablacar pour pouvoir rentabiliser un petit peu le trajet et pouvoir partager un petit peu les frais.
Sur la plateforme, il y a 70 000 places à vendre chaque jour. C'est 40%. 5% de plus que d'habitude.
Reportage de Lucie Amadieu. Le prix à la pompe scruté aux États-Unis aussi forcément par les électeurs de Donald Trump qui pensaient avoir porté à la Maison-Blanche un champion du combat contre l'inflation. Le fait que plusieurs pays puisent dans leurs réserves stratégiques ne suffit pas. Voilà que la guerre au Moyen-Orient change un peu l'équation d'une autre guerre, celle en Ukraine. Le pétrole a été au cœur des sanctions internationales depuis le début de l'invasion. Mais voilà ces sanctions mises en pause. Décision de Donald Trump. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour François.
Correspondant de France Inter en Russie, Moscou jubile.
Oui, l'émissaire pour les affaires économiques de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, effectivement, affiche sa satisfaction totale sur les réseaux sociaux. Il écrit « Les États-Unis admettent la réalité. Sans pétrole russe, le marché mondial ne peut être stable », a-t-il dit d'un retour d'un voyage à Miami, où il avait notamment rencontré son homologue Steve Witkoff. Clairement, l'annonce de la levée de certaines sanctions américaines sur le pétrole est une bonne nouvelle pour Moscou, qui va pouvoir profiter de la hausse des cours, alors que la Russie doit consentir à de gros rabais pour vendre son pétrole. L'agence Reuters a calculé que ses recettes d'exportation de brut pourraient doubler dès le mois de mars, au moment où les finances russes sont à la peine. L'annonce de Washington semble même susciter des vocations, puisque la Thaïlande s'est dite prête à acheter du pétrole russe, elle aussi.
Alors, cela dit, Sylvain, on ne revient pas non plus à la situation d'avant la guerre en Ukraine.
Non, d'abord parce que les annonces du Trésor américain ne sont que temporaires pour l'instant, 30 jours, et ne s'appliquent qu'aux cargaisons actuellement en mer. Cela représente environ 5% des exportations annuelles de la Russie. Ensuite, les Européens n'achètent plus de pétrole russe. Moscou ne vend qu'en Asie. Et puis, si demain les cours venaient à redescendre, Washington verrait peut-être moins d'intérêt à assouplir ses sanctions. Le Kremlin, d'ailleurs, ce matin, par la voix de son porte-parole, affiche une satisfaction mesurée en rappelant que seuls des volumes importants de pétrole russe pourraient stabiliser le marché, à son sens, façon de dire aux États-Unis qu'il faut aller plus loin.
Merci Sylvain Tronchet, en direct de Moscou pour France Inter. La levée des sanctions sur le pétrole russe, ça n'est pas pour réjouir le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite à Paris depuis ce matin. En ce moment même, à l'Élysée, une conférence de presse avec Emmanuel Macron doit débuter dans les minutes qui viennent. Et c'est un événement. Le président ukrainien sera ce soir sur France Inter, invité exceptionnel. Bonjour Benjamin Duhamel.
Bonjour François.
C'est vous qui mènerez cette interview de Volodymyr Zelensky. J'imagine un certain nombre de fiches en amont, des dizaines de questions. Mais quelles sont les réponses que vous attendez le plus ?
Bon, d'abord pour dire, quand on dit interview événement, ça va de soi compte tenu de la personnalité et de l'importance de Volodymyr Zelensky. Mais c'est une première depuis le début de la guerre en 2020. C'est la première fois que Volodymyr Zelensky se déplacera dans un studio de radio-télévision. Il sera ici à la Maison de la Radio et on aura effectivement du temps pour lui poser tout un tas de questions. Vous venez d'évoquer avec Sylvain Tronchet la question du pétrole russe. Évidemment, ce sera au cœur des interrogations. Le fait de savoir s'il craint que la guerre au Proche-Moyen-Orient détourne les yeux du monde de ce qui est en train de se jouer en Ukraine, ce qui se passe aussi en termes d'aide militaire, puisqu'il y a une sorte de retournement de l'histoire assez incroyable. Pendant 4 ans, l'Ukraine a réclamé de l'aide militaire au monde. Et là, ce sont les États-Unis, les pays du Golfe, eh bien, qui demandent l'expertise, notamment en termes de drones à Volodymyr Zelensky. Et puis, bien sûr, on parlera aussi de la façon personnelle dont il vit les épreuves, la façon dont il les traverse, et ce depuis 4 ans. Voilà tout ce qui est à l'ordre du jour de cet entretien exceptionnel ce soir à 18h.
Benjamin Duhamel, merci beaucoup. Émission spéciale du 18-20 de France Inter autour d'Éric Delvaux. Le téléphone sonne, consacré à ce qu'on viendra d'entendre. Donc cette interview de Volodymyr Zelensky sur France Inter. Encore un mot de l'actualité internationale avec les 27 États de l'Union Européenne qui veulent rendre illégales les intelligences artificielles qui génèrent de fausses images sexuelles.
France Inter, le 13-14, François Geffrier.
Lui aussi a failli être mobilisé dans la guerre et plus précisément dans l'effort de montée en puissance de l'industrie de la défense. On parle du livret A, le bon vieux livret A, placement préféré des Français. Rappelons qu'il rapporte aujourd'hui 1,5% par an. Finalement, l'idée qu'il finance la défense a été écartée. En revanche, on a eu hier, de la bouche d'Emmanuel Macron, la confirmation du fait qu'il servirait à un autre chantier du siècle, la relance de l'énergie nucléaire. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour François.
On avait pourtant en tête que le livret A servait au financement du logement social. C'est donc de l'argent qui va lui manquer ?
Eh bien non, pas forcément. En fait, l'argent déposé sur le livret A, c'est une immense réserve. 400 milliards d'euros gérés par la Caisse des dépôts. La moitié aujourd'hui est dédiée à des prêts, en priorité oui au logement social. L'autre moitié est placée sur les marchés. Mais ce curseur, il peut bouger en fonction des besoins. On peut consacrer une plus grosse partie aux prêts et moins aux placements. Donc la Caisse des dépôts nous l'assure ce midi. On pourra bien prêter pour le nouveau nucléaire, les 6 EPR2, sans sans réduire le soutien historique au logement social. 400 milliards, il y a de la marge, suffit de découper ce gros gâteau un peu différemment. Et d'ailleurs, les bailleurs sociaux eux-mêmes ne sont pas inquiets, pour le moment en tout cas.
Alors, autre question, on imagine que le nucléaire qui arrive dans le livret A, eh bien ça va faire fuir du livret A certains épargnants qui sont opposés au nucléaire.
Ah, clairement, c'est un risque, mais quand on pose la question à Bercy, là aussi, très grande sérénité affichée. Dans l'entourage du ministre de l'économie, on l'assure, le nucléaire, c'est de plus en plus consensuel en termes de souveraineté énergétique, on le voit bien en ce moment avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais aussi, car je cite encore Bercy, il représente un gros vivier d'emplois. Selon la dernière enquête d'opinion sur le sujet, elle date du début de la semaine, sondage Ipsos BVA pour Orano, l'ex-Areva, 6 Français sur 10 estiment désormais que le nucléaire est un atout pour le pays. Il n'était que 4 sur 10 en 2019.
Alexis Morel, merci du service économie de France Inter. Un mot de l'actualité sur l'île de la Réunion, puisque son volcan, le Piton de la Fournaise, est en éruption depuis un mois. 2 coulées de lave ont coupé la route nationale qui relie le sud à l'est de l'île, la RN2, ce qui ne va pas faciliter la vie des Réunionnais. C'est une première en près de 20 ans. Un bras de lave d'une hauteur d'1,50 m, dit la préfecture. Encore 2 jours avant les élections municipales, mais on est déjà dans les toutes dernières heures, puisque la campagne officielle s'arrête ce soir à minuit. À ce moment-là, vous n'entendrez plus le moindre mot des candidats et candidates à la radio comme à la télé. En attendant, nous voici dans ce 13h de France Inter sur 2 marchés parisiens que tout oppose du point de vue de la sociologie. On sera dans un instant dans un quartier populaire. D'abord avec vous, Lise Roseveil, vous étiez au marché de Passy, dans le chic 16e arrondissement, territoire conquis pour la droite. C'est là que Sarah Knafaud, candidate du parti d'extrême droite Reconquête, met toutes ses forces dans la bataille, avec un message qui peut sembler paradoxal, le vote utile c'est elle et pas Rachida Dati.
Éternelle veste jaune, même sous la pluie, et sourire Colgate, Sarah Knafaud s'approche d'une électrice conquise.
Vous êtes notre seul espoir hein, pour l'union là.
Mais oui, on l'attend tous cette union, on va la faire.
L'union de la droite et de l'extrême droite, Rachida Dati et Sarah Knafaud, juste à côté, Jeannine a bien compris la leçon.
Qu'on ne nous dise pas, en votant Sarah Knafaud au premier tour, on fait perdre la droite. Non, on ne la fait pas perdre, on augmente nos chances que la droite passe à Paris. Ça ne m'empêchera pas au second tour, je le dis haut et fort, de voter Rachida Dati.
La candidate Les Républicains, au contraire, le répète encore hier soir en meeting, elle est le seul rempart face à la gauche. Il ne faut pas disperser les voix. Réponse de Sarah Knafaud.
Le seul vote utile dimanche, c'est moi. Parce que je suis le seul vote qui garantisse la seule stratégie vers la victoire, qui est l'union des droites. Si la droite est désunie, quel que soit le scénario, la droite perd.
Son objectif, obtenir le meilleur score au premier tour et forcer sa concurrente à l'alliance. Mais Rachida Dati le refuse catégoriquement. Sarah Knafaud serait-elle prête à se maintenir au risque de faire perdre la droite, elle balaie la question et met la pression sur sa rivale.
Celle qui fera perdre la droite sera celle qui refusera l'alliance. Même en cas de désistement, la droite ne gagnera pas sans alliance, en réalité. Les électeurs ne se reportent pas automatiquement. Donc, la personne qui refusera l'alliance, si jamais cela arrive, sera la personne qui fera perdre la droite.
Le pari de l'union des droites n'est pas gagné. Sarah Knafaud police son image, mais est toujours renvoyée à son étiquette d'extrême droite. Elle qui siège avec l'AFD allemande au Parlement européen. La veste jaune n'y fait rien.
Et on l'entend à votre reportage, Lise Roseveil, les mathématiques et la stratégie, effectivement, ne sont pas loin. Allons donc à l'opposé maintenant de l'échiquier politique parisien. Sophia Chikirou, candidate à la mairie de Paris sous les couleurs de la France insoumise. Laurence Perron, vous l'avez suivi ce matin sur le marché de Belleville, quartier populaire, 19e arrondissement de la capitale. Et le marché, au milieu des victuailles, c'est l'occasion pour elle de parler d'alimentation et de pouvoir d'achat.
Aïe, la clé !
Sophia Chikirou, chapeau mou, inondé par la pluie, hallucine sur les prix.
Vous avez vu le prix du kilo d'épinards ? 4,99, c'est hyper cher. Hein. Aujourd'hui, s'alimenter correctement est devenu une affaire vraiment politique. Nous n'aurions pas été candidats si nous n'avions pas constaté depuis plusieurs années tout l'abandon. 50% de la population parisienne vivent avec moins de 2500 euros par mois. Un studio à Paris, c'est dans les 900 euros pour 24-25 mètres carrés. Comment voulez-vous vous en sortir finalement si on n'a pas une action déterminée contre la spéculation immobilière et pour baisser les loyers et pour installer des réseaux d'alimentation, de production aussi, parce qu'on peut de nouveau produire à Paris. Moi, j'ai proposé de relancer la filière des champignons de Paris, ça peut peut-être faire rire. C'est un aliment qui vient de chez nous, qu'on importe de Pologne ou d'Ukraine.
Se frayant un passage entre les caddies, les étals bondés, des dizaines d'insoumis tractent sous les trompes d'eau. Oui. Ça marche bien ou pas ?
Très très bien, les gens nous soutiennent, ils nous disent de tenir, notamment contre un PS qui vote avec Macron et qui nous fout dedans.
Et la candidate vient de répondre à Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, qui promet qu'il n'y aura aucun accord au second tour. irresponsable, cingle-t-elle.
Reportage France Inter de Laurence Perron, les municipales à Nice, avec l'affaire de la tête de porc déposée il y a 2 semaines devant le domicile du maire sortant Christian Estrosi. Les 2 derniers gardés à vue dans cette affaire sont présentés aujourd'hui à la justice en vue d'une probable mise en examen. Il s'agit d'un spécialiste du marketing proche du couple Estrosi et d'un ancien du contre-espionnage. Comme pour chaque élection, le premier chiffre qu'on aura sera celui de la participation. La dernière fois en 2020, elle était anormalement basse pour des municipales. On était en plein Covid. Alors une initiative, la brigade de gendarmerie mobile de Haute-Vienne va au contact des habitants, parfois éloignés des brigades, pour leur proposer de faire tout de suite leur procuration. Axel Lepape, ça ressemble à quoi ?
À l'arrière de la fourgonnette de la brigade mobile, une table, un ordinateur et tout le nécessaire pour faire une procuration. L'objectif pour le gendarme Jérémy, c'est d'aller directement au contact des habitants.
Le but, c'est de s'implanter sur une commune où il n'y a pas de brigade de gendarmerie, dans le but en fait de faciliter les gens pour faire leur procuration, que ça soit effectué sur Internet ou en procuration papier. C'est pas parce qu'on est dans un endroit un peu plus reculé que la gendarmerie ne doit pas être présente.
Alors la brigade mobile permet de venir faire vérifier votre identité dans le cadre d'une procuration en ligne ou de faire une procuration papier directement dans votre village.
Ce service-là, justement, c'est fait pour que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à une gendarmerie, eh ben nous, on fait un service de proximité où elles peuvent le faire.
L'objectif de cette brigade mobile est aussi de renforcer le lien et le service de proximité pour l'adjudant Florian.
Des fois, les gens n'osent pas pousser la porte de la brigade, mais ils nous voient sur la place du village, ils viennent discuter et ils viennent faire une procuration.
Et pour les électrices et électeurs qui seraient dans l'incapacité totale de se déplacer, ils rappellent que la gendarmerie peut venir directement à votre domicile.
Du coup, quand on a fini avec le camion, on vient à leur domicile pour faire les procurations. Mais ça, toutes les brigades de gendarmerie peuvent le faire.
Et si vous n'êtes pas en mesure d'aller voter les 15 et 22 mars prochains, il n'est pas trop tard pour faire une procuration, que ce soit en ligne, à la gendarmerie ou peut-être grâce à la brigade mobile de Haute-Vienne.
Axel Lepape, ici Limousin pour France Inter. Notre passage quotidien par les Jeux Paralympiques de Milan-Cortina en Italie. Alors, pas de médaille, hélas, ce matin en parasnow, mais les Français Cécilie Hernandez et Maxime Montagioli n'ont pas démérité. On retrouve en direct Noureddine Zidane. Vous suivez le géant homme, en particulier le Français Arthur Bochet, déjà médaillé.
Oui, avec une médaille d'argent en descente et surtout l'or mardi en super combiné au terme d'un incroyable scénario après une première manche ratée en super G et la chute de son rival russe Alexei Bugayev en fin de seconde manche sur le slalom. Cette fois-ci, Arthur Bochet a été au rendez-vous. Il souffre toujours un petit peu du pouce après être tombé en super G, mais il a quand même réalisé le meilleur chrono ce matin sur la première manche de ce slalom géant. Devant le Suisse Robin Kuch et le Russe Alexei Bugayev, le géant, c'est la discipline favorite du Français, dont il est quadruple champion du monde. Mais curieusement, ça ne lui a jamais complètement réussi au jeu. Troisième il y a 4 ans à Pékin. Il n'avait même pas terminé la course il y a 8 ans à Pyeongchang. Un géant qui donc tient particulièrement à cœur de l'Azuréen. Mais ce sera serré. Bochet n'a que 29 centièmes d'avance sur Robin Kuch. Double médaillé d'or sur ces jeux en descente et en super G. Bochet qui s'élancera dans la prochaine demi-heure en 15e position, juste après ses deux rivaux suisses et russes.
Merci Noureddine Zidane, envoyé spécial de France Inter sur les Jeux Paralympiques. Voilà pour ce tour de l'actualité. Il est 13h27 à suivre d'ici 14h. Quelle place pour la culture dans la campagne des municipales? Vous êtes électeur, électrice, vous voulez témoigner sur un super projet culturel dans votre commune ou sur ce dont vous rêvez pour que ça bouge un peu plus? Le cinéma, la musique, tous les arts, les festivals. Qu'en pense et qu'en a fait votre maire ces dernières années? Qu'attendez-vous pour le prochain mandat du côté de la culture? Vous nous écrivez par WhatsApp au 01 45 24 7000 ou sur l'application Radio France. Notre feuilleton dans un quart d'heure, Sarah Mansoura, toujours avec Luca et ses poules Pékin. Il prend soin de leur santé, lui qui est futur vétérinaire. C'est la France et c'est une chanson avec Virginie Troussier et Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour François.
Bonjour François.
Dans C'est la France, Virginie, on prend un forfait de ski et un chapelet.
Oui, et nous partons à Valsenis, en Haute-Maurienne, à la rencontre d'un prêtre qui propose des confessions sur les télésièges. Nous verrons comment 5 minutes dans les airs peut alléger les âmes.
Rendez-vous dans 20 minutes. Et puis juste après, Julien Baldacchino, le programme de C'est une chanson.
La chanteuse Pyjama qui vient de sortir son nouvel album et nous raconte son rapport à la chanson Everybody's Got to Learn Sometimes du chanteur Beck.
Ce sera un peu avant 14h, avant toute chose. La météo arrive sur France Inter.
France Inter présente
Suis-je faite pour l'amour ?
C'est la question que je me pose dans mon nouveau podcast, Chronique d'une célibataire.
Louise Aubéry.
Quand ma sœur jumelle m'a annoncé qu'elle allait se marier avec mon meilleur ami, j'ai réalisé que j'avais 6 mois pour trouver celui qui allait m'accompagner au mariage. Cette semaine, je vous raconte comment ma sœur et mon meilleur ami se sont retrouvés fiancés.
Chronique d'une célibataire.
Un nouvel épisode à retrouver tous les jeudis sur l'application Radio France.
Vous êtes toujours bien sur France Inter, il est 13h29.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Sophie Bria.
Bonjour François, bonjour à tous.
De la pluie et du vent sont au programme sur une grande partie du pays.
Oui, et plus précisément cet après-midi, des pays de la Loire à l'estuaire de la Gironde, jusqu'à l'est des Hauts-de-France, le bassin parisien, la Champagne-Ardenne et l'ouest de la Lorraine, de la Bretagne à la Normandie jusqu'au Pas-de-Calais. Le ciel reste bien couvert, les averses sont quand même fréquentes, avec localement un peu de grésil même possible. Et attention, le vent se renforce jusqu'à 80 km/h le long des côtes.
Oui.
Des Pyrénées aux Alpes et la Méditerranée, eh bien le soleil résiste, mais en Corse, quelques averses se déclenchent sur les massifs. Ailleurs, les nuages s'imposent peu à peu, des Landes à l'Alsace au fil des heures. Et ce soir et cette nuit, Météo France annonce que ce temps perturbé va se décaler vers l'est.
Les températures ont bien baissé.
Oui, surtout sur le nord-ouest. Il fait cet après-midi de 6 à 10 degrés. 7 à Cherbourg, 10 degrés à Paris. Par contre, sur le reste du pays, il fait de 11 à 19 degrés. 19 à Biarritz, 17 à Lyon et 13 degrés à Limoges. Et demain, les températures vont baisser sur tout le pays et il y aura de la neige dès 500 mètres sur les massifs.
Merci beaucoup Sophie Bria pour la météo.
France Inter, le 13-14, François Geffrier.
Il est 13h30, c'est fort logiquement la deuxième moitié du 13-14 de France Inter qui commence. Dernier jour de campagne ce vendredi avant le premier tour des élections municipales. Demain, on n'en parle plus et dimanche, on vote surtout. Alors on a parlé de sécurité, de logement, d'accès aux soins, d'environnement. Un sujet un peu mis de côté peut-être, alors qu'il fait partie de la vie locale et des compétences des maires, c'est la culture. Quelle place pour la culture dans la campagne municipale? On en parle avec vos questions, vos exemples chez vous, dans votre commune, des projets culturels, des lieux qui ont ouvert, des festivals, des événements qui se tiennent près de chez vous. Des critiques aussi peut-être, des lacunes en matière culturelle dans votre ville. Vous nous écrivez sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sur l'application aussi, l'application Radio France. Malika Seguino, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Vous êtes la directrice générale d'Eco Scène, qui est le premier syndicat national du spectacle vivant privé. Vous rassemblez 500 entreprises. Alors, il y a des producteurs de spectacles, des exploitants de salles, des directeurs de théâtre, des diffuseurs, des gens qui organisent des festivals aussi, des cabarets et des compagnies de cabarets, avec tout ce scope dans votre périmètre. Comment se porte ce monde de la culture, j'allais dire au niveau local, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui?
Eh bien, en fait, en tout cas, les chiffres sont bons, la croissance est là, puisque si on regarde l'année 2025, on peut dire qu'il y avait près de 70 000 représentations payantes, près de 40 millions de spectateurs, et cela a généré près de 2 milliards d'euros de recettes de billetterie.
Là, ce sont des chiffres que vous nous dévoilez, qui sont tout récents.
Ce sont des chiffres, en fait, qui sont issus du Centre National de la Musique, qui regroupe tout le périmètre de la musique des variétés, comédie musicale et cabaret. Donc, effectivement, ce sont les chiffres de l'activité 2025.
Je vois que vous en parlez avec un quasi-sourire, ça veut dire qu'on est sur une plutôt un bon cru en 2025?
On est sur un bon cru depuis la fin des années Covid.
Oui.
Et ça, c'est pour faire taire aussi les Cassandres qui avaient indiqué que le spectacle vivant ne renaîtrait pas après les années Covid. Donc au contraire, je pense qu'on peut, dans ce contexte un peu morose, se féliciter de ces chiffres. Le public est présent, le public aime le spectacle vivant dans toutes ses diversités, vous l'avez rappelé, Écossaine les représente toutes, et l'aime surtout partout en France. Parce que très souvent, on oppose effectivement les métropoles et les territoires ruraux. Eh bien nous, parmi tous nos chiffres, et notamment on publie depuis plus de 10 ans un baromètre des pratiques du spectacle vivant, et on se rend compte effectivement que tous les Français sont très attachés à ce spectacle vivant et ils estiment qu'il pèse énormément dans l'économie locale, à hauteur de 80% d'entre eux. Donc c'est extrêmement important partout en France.
Ça, c'est un message important, puisqu'on a tendance parfois à réduire la culture à ce qui coûte de l'argent, à ce qui nécessite des subventions, et c'est évidemment majeur, mais il y a aussi tout ce que ça rapporte. Et parfois, un euro d'ailleurs public va générer, peut-être que vous avez même le chiffre, un certain nombre d'euros en recettes de billetterie, évidemment, et puis de tout ce qui est hôtel, toute la vie locale qui s'en trouve renforcée.
Très souvent, en fait, on a une vision un peu caricaturale ou cliché de ce qu'est le spectacle vivant. Je parle surtout du spectacle vivant aujourd'hui. Il y a effectivement deux temps dans ce spectacle vivant. Il y a ce qu'on connaît, qui est le spectacle vivant subventionné, dont on parle beaucoup. Effectivement, les opéras, les scènes publiques qui ont une mission de service public et qui ont effectivement un soutien public. Et puis, vous avez tout le secteur privé qui, lui, est financé majoritairement par la billetterie et par l'offre de spectacles qu'il fait. Et lui, c'est un modèle entrepreneurial qui repose sur le risque. Mais Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, et c'est ça aussi le problème aujourd'hui du débat public autour de cette culture en France, c'est d'opposer le secteur public au secteur privé. Au contraire, ce sont des secteurs interdépendants. Vous avez besoin effectivement d'acteurs économiques, comme ceux que nous représentons, des producteurs de spectacles, qui prennent des risques pour développer des projets artistiques avec des artistes, pour lancer leurs spectacles, pour les accompagner en tournée, pour faire tourner cela partout en France, dans des salles de spectacle, mais également dans des festivals, et également pour pouvoir les développer à l'international. Mais pour cela aussi, en France, on a besoin de ces lieux, de ces lieux qui sont effectivement soutenus par les collectivités, les scènes de musiques actuelles, mais également toutes les scènes publiques. Donc c'est vraiment un secteur qu'il ne faut plus opposer. Il n'y a pas d'un côté le grand secteur public et de l'autre côté un secteur privé qui ne ferait que du mainstream.
D'autant que les artistes, eux, peuvent passer de l'un à l'autre. On peut jouer une pièce dans un théâtre public puis un privé. On peut être pareil pour des expositions et tout un tas de choses ou faire de la musique. Pour en revenir au municipal, est-ce que vous, sur le terrain, la culture, vous trouvez que ça a été un sujet ou pas, que ce soit localement ou dans le bruit de fond national sur ces élections ?
En fait, ça a été ni plus ni moins que d'habitude. La culture est effectivement pas vraiment le cœur de toutes ces campagnes. Sauf peut-être au travers de débats un peu fantasmés et caricaturés, comme étant un secteur élitiste. Mmh. Et là, vraiment, je m'inscris en faux sur cela. Le spectacle vivant est véritablement quelque chose qui est une culture profondément populaire. Et donc, effectivement, les Français sont attachés au spectacle vivant, ils sont attachés à leur lieu, ils sont attachés à leur festival.
Moi, j'ai regardé un tout petit peu dans les programmes de la ville qui me concerne. J'ai vu des créations de résidences d'artistes, de nouveaux festivals, de nouveaux lieux culturels, un soutien renforcé aux associations. Et parfois, dans d'autres programmes, le simple fait de s'engager à maintenir à l'état qu'il est le budget dédié à la culture, c'est déjà une promesse de campagne. Il faut dire que tous les budgets globalement, d'ailleurs, dans le public, dans le privé, les budgets de fonctionnement des entreprises et de l'État et des collectivités sont en baisse. Comment vous voyez-vous ces propositions-là ?
Mais là encore, effectivement, je pense qu'il y a surtout une méconnaissance de ce que sont réellement les secteurs de la culture et du spectacle vivant. Nous, on l'a constaté lors des derniers débats budgétaires, avec effectivement un peu tout et n'importe quoi qui a été dit autour de cette culture. Donc, on pense surtout à une culture qui dépend de l'impôt des Français. Le secteur que nous représentons ne dépend pas de l'impôt des Français.
Est-ce que les maires, sans aller sur ce qui dépend de l'impôt des Français, peuvent avoir une action culturelle ? C'est-à-dire une action culturelle gratuite, créer quelque chose, mais sans que ça coûte ?
Bah, bien évidemment,
ils peuvent pousser toutes
les initiatives. Mais moi, je pense qu'au-delà de pousser des initiatives, c'est également permettre aux acteurs qui sont déjà actifs dans ce secteur culturel de continuer à pouvoir créer, accompagner des projets pour qu'il y ait toujours cette diversité d'offres sur l'ensemble du territoire français. C'est ça l'importance aujourd'hui, c'est de permettre à l'intégralité des acteurs de pouvoir continuer à exister et à pouvoir proposer une offre diversifiée.
Alors, je me dis aussi que pour vous, c'est pas forcément simple de vendre, entre guillemets, l'utilité et la nécessité de la culture à des équipes de campagne qui vont vous répondre que c'est la guerre, que les gens veulent se loger, respirer un air correct et se sentir en sécurité. Vous faites face aussi à des priorités, là si on, à nouveau on est dans le côté politique, qui semblent s'imposer face à la culture qui semble être facultative quelquefois.
Alors moi, je n'aime pas trop ce débat essentiel, non essentiel. J'estime que, en fait, ce que nous on attend des pouvoirs publics, c'est pas tant effectivement plus de subventions. Au sein du secteur du spectacle vivant, on a un opérateur public qui s'appelle le Centre National de la Musique. C'est globalement le petit nouveau dans le décor à côté du Centre National du Cinéma, dont on parle.
Qui lui finance massivement le cinéma et notamment les petites productions.
Eh bien voilà. Eh bien c'est la même chose pour le Centre National de la Musique. C'est un mécanisme extrêmement vertueux qui repose sur la solidarité. En fait, c'est un modèle de redistribution qui garantit que la croissance globale du secteur va pouvoir profiter à l'ensemble de la filière au travers de taxes payées par justement les acteurs de la filière. C'est la filière qui finance la filière. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a porté toute l'attention dans le cadre des débats budgétaires. Pourquoi ?
Avec notamment cette taxe sur le streaming musical,
Alors il y a deux types de taxes. Il y a la taxe sur la billetterie de spectacle et la taxe sur le streaming musical. Oui. Et ça finance pour 80% l'intégralité des aides au secteur du spectacle vivant et de la musique enregistrée. Notre problème aujourd'hui, il n'est pas tant effectivement d'obtenir plus de subventions que d'obtenir un déplafonnement de ces taxes. Pourquoi ? Parce que ces taxes aujourd'hui, elles sont plafonnées à un niveau inférieur à leur rendement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le secteur, qui peut trouver des solutions en son sein pour continuer à développer des projets ambitieux et des projets plus à l'esthétique plus fragile, est complètement bridée dans son fonctionnement parce que la taxe est plafonnée à un niveau inférieur au rendement. Ça signifie quoi concrètement? Que dès que vous dépassez le plafond, eh bien cette taxe va alimenter le budget général de l'État. Sur les trois dernières années, c'est 25 millions d'euros qu'a reversé le secteur au budget général de l'État. 25 millions d'euros, c'est l'intégralité des aides par an que verse le CNM au spectacle vivant.
C'est donc colossal pour votre secteur, et ce que vous décrivez, c'est un mécanisme qui existe malheureusement souvent dans ce qu'on appelle les taxes affectées, donc affectées à un certain point précis de l'économie.
Sauf que ce plafonnement n'existe pas pour le CNC. On en a beaucoup parlé. Donc nous, on demande la même égalité de traitement pour le CNM.
Cinéma et musique, même combat.
Exactement. Et d'ailleurs, dans un cadre de débat politique, c'est important, effectivement.
Malika Seguino, je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Ecosen, qui est donc le premier syndicat national du spectacle vivant privé. La proposition du côté, donc l'offre, du côté des artistes, on a l'impression qu'elle est foisonnante, y compris au niveau local, sans parler du streaming, des réseaux sociaux, de TikTok. Il faut réussir à exister alors que tout s'additionne et que tout s'accélère. Comment on fait justement, à nouveau, je reprends cet échelon local qui nous intéresse aujourd'hui à l'avant-veille des élections municipales.
C'est ça la grande difficulté aujourd'hui. Le grand défi, c'est de pouvoir accompagner les artistes sur le temps long. C'est tout le travail, effectivement, d'un producteur de spectacle qui rencontre un artiste et son projet. Vous l'avez dit vous-même, au travers, effectivement, de la multitude des images et des réseaux sociaux, vous pouvez exploser d'un coup. Et ensuite, la question, c'est de durer dans le temps. C'est pour cela que nous, on essaie de développer des mécanismes de soutien sur le temps long pour pouvoir construire des carrières sur le temps long. Antérieurement, vous aviez effectivement différentes étapes. Vous commenciez dans des salles de petites jauges, ce qu'on appelle effectivement surtout le label des scènes de musique actuelles. Progressivement, vous avanciez, vous pouviez faire des zéniths, et quand ça marchait très bien, vous alliez faire des arénas et des stades. Aujourd'hui, vous pouvez passer directement de la SMAC au stade. Ça, c'est totalement...
Vous faites un carton sur les réseaux sociaux, et tout de suite, on vous propose le Stade de France.
Un succès absolument incroyable. La problématique, c'est après. Après, comment est-ce qu'on arrive à construire des carrières sur le temps long? Il y a une quinzaine d'années, c'était encore possible de se projeter sur 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, la problématique de ces artistes, c'est de travailler sur le temps long. Donc, d'avoir avec eux des professionnels qui ont la capacité de les accompagner sur le temps long, avec les bonnes et les mauvaises années. Et c'est vraiment le défi du moment, avec la transformation de ce secteur et la transformation des pratiques des spectateurs, qui effectivement ont aussi fait évoluer l'offre.
Alors, au sein de votre syndicat, Malika Seguino, il y a des exploitants de salles. Je vais donner la parole à des auditeurs. On a Rachel qui nous a écrit sur l'application France Inter à Caen, une salle de spectacle de concert digne de ce nom pour la commune de Douarnenez. On est donc en Bretagne, le pays du Queen Yaman, 14 000 habitants, nous rappelle-t-elle, musique, cinéma, théâtre, art de la rue, cirque contemporain, cette ville mérite mieux dans ce coin du Finistère, plus de respect et d'investissement. Et puis on a Yannick qui est avec nous par téléphone. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Alors en fait, à Dunkerque, on a un jazz club qui a vécu pendant 40 ans. Et malheureusement, suite à une mauvaise gestion, il a fermé ses portes. Et en fait, c'est une gestion en fait grâce aux subventions de l'État, de la communauté urbaine et de la ville. Sauf que rien ne peut se faire sans une aide en fait de la ville, en fait, pour recréer justement le jazz club qui est très connu en France et même en Europe selon les jazzmen et jazzwomen qui venaient jouer à Dunkerque.
Donc on est à Dunkerque et on entend votre appel. Merci beaucoup Yannick, lancé au maire sortant et aux ceux qui se présentent ou se représentent dans cette ville de Dunkerque dans le Nord. Merci de nous avoir appelé Yannick. Qu'est-ce qu'on peut dire à Yannick, cet auditeur, Malika Seguino? Là on est sur le jazz, un jazz club. Est-ce que c'est niche? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est de nouveau à la mode? Parce qu'il y a des tendances forcément qui arrivent et qui peuvent refluer.
Oui, mais ça reste effectivement une esthétique considérée comme plus fragile et plus difficile. Donc, c'est aussi une esthétique qui est soutenue par le Centre National de la Musique. Donc, c'est pour cela que je reviens toujours sur ce sujet. Oui. De laisser nous effectivement pouvoir construire des programmes adaptés aux besoins au travers des recettes générées par le secteur et par sa croissance.
En tout cas, là, on voit avec ces deux exemples d'auditeurs, avec Yannick d'une part, Rachel d'autre part, que on a des auditeurs amateurs de culture qui s'intéressent à ce qui se passe vraiment près de chez eux et qui utilisent tous ces équipements culturels qui sont à côté d'eux. Ce que je voulais aussi vous poser comme question, puisque vous avez dans votre syndicat aussi tout ce qui est festival, on est vraiment au tout début de cette saison, il y a en ce moment le festival des Inrocks, dans un mois ce sera le Printemps de Bourges, et ensuite toutes les grosses machines de l'été. Comment se porte ce secteur qui est parfois un peu présenté comme entre le marteau et l'enclume, avec des cachets d'artistes qui augmentent, les normes de sécurité qui augmentent aussi, et éventuellement des spectateurs qui peuvent être plus exigeants sur certains aspects?
En fait, le festival, c'est la surface immergée de l'iceberg. iceberg. C'est effectivement ce qui concentre l'intégralité des difficultés du secteur. Vous avez en effet un secteur en croissance, un public qui est présent, mais vous avez un secteur sous tension, parce que le modèle économique de la musique, il s'est profondément repositionné avec une forte dépendance au live pour l'intégralité des acteurs.
On dirait que ce modèle économique, il y remet en cause quasiment chaque année. On se demande si ça va tenir ou pas cette année pour les festivals.
Je suis pas sûre qu'il soit remis en cause. Je pense que c'est effectivement une tendance qui dure. Voilà, c'est une tendance qui dure et qui est fortement observée par les acteurs, qui effectivement réagissent, s'interrogent pour faire aussi évoluer leur modèle et le fait festivalier. Mais ce qui se passe pour les festivals, c'est ce qui se passe tout au long de l'année, dans le cadre d'une tournée. Donc quand un producteur prend le risque de lancer un artiste sur la route, il prend le risque de faire des dates qui marchent et qui marchent pas. Et au travers de ces dates, il y a effectivement les dates en festival. Oui. Et c'est vrai que le festival, il concentre toutes les difficultés parce que c'est sortir une ville de terre une fois par an. Donc l'intégralité des problématiques une fois par an. D'autant plus avec les contraintes écologique extrême.
Et les aléas climatiques qui
La difficulté effectivement aujourd'hui dans une compétition qui est mondialisée pour obtenir les artistes qui vont permettre d'attirer le public. Tout cela en faisant extrêmement attention au prix du pass pour continuer à rendre ces événements accessibles. Ça finit par rendre l'équation totalement impossible.
Là vous parlez du pass pour les festivals, il y a un autre pass dont j'aimerais vous parler, c'est celui du pass culture. Enjeu pour la jeunesse, il faut aussi la convertir ou la happer dès le plus jeune âge à cette culture. Beaucoup de choses sont gratuites, d'autres sont subventionnées. Mais j'imagine que tout n'est pas qu'à faire d'incitation financière. Il faut que l'offre soit attractive et vraiment, j'allais dire, marketée, tournée, conçue pour les jeunes. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus chez vous ?
Comment est-ce qu'on travaille là-dessus ? Eh bien justement, on écoute le public, on écoute les jeunes. On fait beaucoup d'études auprès des jeunes pour effectivement comprendre un peu leurs attentes. Dans toutes les dernières études qu'on a fait, on en a fait une récemment l'été dernier. Ils ont une vraie attirance pour le live. Et ça, je dirais toujours que c'est un atout hyper fort. À l'heure où on ne cesse de dire qu'ils sont tous devant leurs écrans et que le numérique prend toute la puissance, eh bien je peux vous assurer que pour eux, le live reste l'expérience éphémère, singulière et par principe. Principe imparfait, et c'est ce qu'ils recherchent. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons. Et vous l'avez dit, le pass culture, c'est effectivement quelque chose d'assez particulier, puisqu'il faut attirer le jeune. C'est pas une offre, c'est pas quelque chose d'automatique. C'est lui qui va faire le choix d'aller vers telle ou telle activité. Donc nous, on travaille beaucoup avec les équipes du pass et surtout beaucoup avec les équipes pour analyser les attentes de ce public qui sera notre public de demain.
En tout cas, ce qui est enthousiasmant, c'est que les chiffres, vous nous l'avez dit, sont bons. On voit que les points d'accès, des points d'entrée dans la culture sont multiples. Un grand merci Malika Seguino, directrice générale d'Ecosen, le premier syndicat de ce secteur du spectacle vivant privé, d'être venue dans ce 13-14 de France Inter parler de la culture dans ces élections municipales. Et je cite aussi Catherine qui nous a appelé de Saint-Nazaire et qui, elle, regrette qu'il y ait beaucoup de basse et de boum-boum chez ses commerçants et moins de musique classique, ce qui lui plairait aussi. On va leur suggérer d'écouter nos amis de France Culture, de France Musique, pardon. France Culture, ça marche aussi. 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton avec un jeune éleveur de poules d'ornement. Luca Vio, 18 ans, qui est aussi étudiant en école d'assistant vétérinaire. Justement, pour lui, le soin, c'est tout autant prévenir les maladies chez ses poules que leur donner de l'affection, réduire leur stress par des manipulations. Et vous allez l'entendre au micro de Sarah Mansoura, sa passion ne se cantonne pas à ses poules.
Souvent, les élevages où il y a beaucoup de maladies, c'est les élevages qui sont très cloisonnés, où c'est pas très très propre. Où il y a souvent de l'humidité, par exemple du coryza. Donc c'est un peu comme le chat, donc le nez qui coule, les yeux tout collés, et puis la poule qui ne mange plus. Ça peut vite arriver, surtout avec cette race-là qui craint beaucoup l'humidité, parce que vu que c'est très bas, cette poule-là dans l'air mouillé, elle a tout le bas du corps qui est trempé, quoi. Tous les matins, j'y vais pour remettre du grain et de la nourriture, et tous les soirs, j'y repasse. Et sinon, après, quand je nettoie tout ça, là, ça peut me prendre... De bonnes heures, quoi, pour vraiment tout bien nettoyer. Tout. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est devenu vraiment très important, quoi, pour moi.
Il y passe vraiment beaucoup de temps. Il se rend pas compte, mais tous les matins, tous les soirs, il est tout le temps en train de les observer, de les scruter, de les identifier. Oui, c'est une vraie passion, mais... Il faut savoir que nous, sur notre activité, on a à peu près 150 adhérents qui passent la semaine au club. Et on en a peut-être pas la moitié, mais un bon quart qui possède des poules de Luca. Des petits, des poussins. Parce que c'est vrai que les gens ils trouvent ça génial d'avoir 2-3 poules dans leur jardin. Puis c'est un peu la mode maintenant, cet effet. Donc il a beaucoup de sujets qui sont dispatchés un peu partout chez nos clients. Il en a dans les écuries, donc bah, les gens, quand ils se promènent, quand ils viennent amener leurs enfants pour faire du cheval, ils entendent, s'ils ne les voient pas, ils entendent les poules. Donc ils posent des questions et après, on les envoie à Luca.
Parce que vous, y a des poules dont vous vous séparez forcément.
Et bah, au moment de la sélection, là, au bout de 3-4 mois, ceux que je ne souhaite pas garder en fonction des caractéristiques de la race, bah, je les mets à disposition à la vente. Et donc c'est à ce moment-là que souvent les clients... Ils m'en achètent. Quand j'étais au lycée, oui, j'avais vendu quelques poules à une de mes profs et puis à mes amis qui sont ici. Ils ont tous pratiquement des poules qui viennent de chez moi.
Et jusqu'où vous comptez aller, comme ça ?
Et bah, ça, je sais pas. Là, j'avance au fur et à mesure des années. Et puis, le but, c'est vraiment d'améliorer les choses, quoi. Tout dépend comment on l'élève. Une poule où personne va la voir dans son poulailler, elle va vite devenir sauvage. Mais après, moi, je les manipule beaucoup. Dès qu'ils sont poussins, je les familiarise. Et puis, comme ça, elles s'habituent très rapidement. Je peux vous montrer, par exemple. Le but, c'est vraiment être que la volaille ne bouge pas. Donc, en écartant les ailes, en les retournant, en regardant les pattes. Faut qu'elle soit pas stressée. Surtout cette race-là, quand cette race-là est stressée, souvent, elles vont avoir tendance à s'affiner, donc à vraiment courber les plumes. Et du coup, le sujet est beaucoup moins joli. En général, en fin de reproduction, je leur mets 2-3 œufs, comme ça, elles sont contentes. Et puis, elles élèvent leurs poussins elles-mêmes, quoi. Puis, elles vivent leur vie de vraie poule, quoi, entre guillemets. Dans mes études, on n'a pas encore vu du tout tout ce qui était volaille.
Vous allez avoir une longueur d'avance.
Ouais, un peu sur ce chapitre-là, oui, ça devrait bien se passer. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Donc là, j'ai commencé ma première année, c'est sur 2 ans. Plus tard, j'aimerais bien être dans une clinique vraiment mixte, qui est de tout type d'animaux, parce que vraiment, je suis fan de tout type d'animaux. Et puis d'aider le vétérinaire dans ses tâches, quoi.
C'est Sarah Mansoura qui a signé cette semaine le feuilleton du 13-14. Antoine Larcher en a assuré la réalisation. Vous le retrouvez sur l'application France Inter, ça s'appelle Une semaine dans leur vie.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, c'est le vendredi à 13h50, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. On vous retrouve Virginie. Aujourd'hui, nous rencontrons le père Geoffroy en Haute-Maurienne à Valceny, un prêtre qui propose des confessions sur les télésièges de la station.
Il a une voix qui enveloppe comme un tour de cou en polaire que l'on remonte jusqu'au nez. Il a le physique d'un homme accordé au relief. Il skie comme les gens d'ici, à la fois solide et serein. Il parle la montagne qui s'habite, la montagne des quatre saisons, celle des hameaux comme celle des stations. Il vit en Haute-Maurienne, vallée étroite où les cimes semblent se refermer derrière vous comme une nasse. Là-bas, la géographie s'impose. Les derniers kilomètres restent toujours ardus. Les villages apparaissent dans un repli de la pente. La vie d'un prêtre en montagne se déroule au sein d'une communauté, le long des sentiers et des pistes. Alors depuis une douzaine d'années, le père Geoffroy annonce à la messe dominicale qu'on pourra le trouver au départ des télésièges de la station de Valceny, repérable à son t-shirt de la paroisse. Il y invite à des confessions dans les airs.
Alors comment elles se déroulent ces confessions ?
Eh bien les confessions durent le temps de la montée, 5 bonnes minutes. Le père Geoffroy dit que c'est largement suffisant. Il invite tout de suite à parler de ce qui pèse, mais de ce qui pèse vraiment. Qu'est-ce qu'on regrette ? D'où vient cette colère, cet orgueil ? Très vite, on en vient au fait. Le père Geoffroy me disait que nous avons tous les mêmes failles. Nous éprouvons tous, à un moment ou à un autre, des remords. Les sujets qui reviennent le plus concernent, je le cite, le manque d'attention à l'autre, le mépris des plus petits, la domination ou encore la possession. Et puis, il est souvent question d'histoire conjugale, de doute à dissiper, d'âme à alléger.
À vous écouter, je me demande si ça ressemble pas un peu à une séance de psychothérapie.
Eh bien, comme le temps manque, le père Geoffroy n'entre pas dans un véritable accompagnement. Mais il pose ses questions qui affleurent sous le tourment pour en déterrer certaines racines. Il y a toutefois un point commun avec la psychothérapie, avouée à soi-même et à un autre, c'est reconnaître sa fragilité, retrouver l'espace du dialogue, celui qui peut solder le passé et ouvrir l'avenir. Au sommet du télésiège, le prêtre donne l'absolution, le sacrement du pardon. Un psychologue, lui, ne pardonne pas. Le prêtre, oui. Puis, ils redescendent ensemble en chantant. Il y a un double intérêt, m'a-t-il dit. Le chant donne du rythme au ski et c'est presque exultant. Les confessés se souviennent de la solennité du moment et de la frérie
fraîcheur ressentie comme un soleil de printemps.
Et puis si on a besoin de plus de temps, peut-être qu'on peut faire plusieurs tours de télésiège aux côtés de ce prêtre. En tout cas, c'est donc la montagne qui aide à se libérer.
Oui, selon le père Geoffroy, le télésiège crée d'abord une promiscuité qui, je le cite, devient celle de l'âme et libère la parole. Selon lui encore, le regard porte vers le haut et cela dit quelque chose. La neige, avec sa limpidité, laisse l'esprit libre d'aller chercher les pensées les plus profondes. Ceux qui viennent le voir sont croyants, mais on peut rappeler que le besoin de se confesser n'est pas propre au catholicisme. Les moines bouddhistes ont aussi leur confession. L'upostasa, qui dans le christianisme fut d'abord public puis privé. Le besoin de parler en vérité à quelqu'un peut être très fort. L'objectif pour le père Geoffroy est de sortir de l'église de son cadre, de la réinventer. À la fin de la conversation, j'ai pensé que ce prêtre m'avait surtout parlé de montagne. Une montagne ouverte, sans clivage, faite de rencontres et de partages, une montagne de passeurs où certains ont retrouvé la liberté.
Incroyable histoire. Merci Virginie Troussier de nous l'avoir raconté. On retrouve C'est la France sur l'application Radio France. Julien Baldacchino, à nous pour C'est une chanson. Votre invitée est chanteuse et vient de sortir un nouvel album.
Elle s'appelle Pyjama, en trois mots, et elle nous emmène dans son univers à la fois simple et mélancolique avec l'album Magnétophie. Elle sera en concert le 19 mars au studio du Théâtre de la Ville dans le cadre du Paris Music Festival, et elle a choisi Everybody's Got to Learn Sometimes, mais pas le tube des Corgis dans les années 80, la reprise du chanteur Beck pour le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
C'est marrant parce que c'est une de mes chansons préférées au monde, et je sais jamais exactement comment s'écrit le titre et comment se prononce le titre. Everybody's got to learn sometime. Je crois que l'histoire de cette reprise, c'est que Michel Gondry a demandé à Beck de reprendre cette chanson pour son film Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ouais, c'est que des noms hyper compliqués quand même, hyper longs. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. Le film, je l'ai découvert pour la première fois quand j'avais 18 ans. Et donc, ça correspondait à un moment où je tombais en plus amoureuse pour la première fois. Et c'est un film, voilà, qui parle d'une histoire d'amour un peu tragique, qui se termine. Et puis les protagonistes essaient de s'oublier, mais en fait, ils s'aiment trop. Et puis c'est une histoire un peu toxique, mais ils veulent quand même réussir. Et à 18 ans, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime. Et donc, je pense que même le reste de la BO de ce film, en fait, m'a vraiment marquée. Et ça me plonge tout le temps dans un état hyper mélancolique, mais que j'aime bien. Ça fait partie de mes chansons préférées parce que je les trouve tellement simples et tellement belles et tellement touchantes que je vais jamais me priver d'une chanson mélancolique, même si elle me fait un peu mal au cœur, quoi.
Une chanson qui fait l'objet d'énormément de reprises, dont celle de Zucchero ou même Laurent Voulzy.
Mais qui, pour Pyjama, est un véritable vecteur de mémoire et de souvenirs.
Moi, j'ai grandi je comprenais pas les paroles, mais pourtant, ça me touchait vraiment. Et là, quand j'ai étudié un peu les paroles, je me suis dit, c'est typiquement le genre d'écriture que j'aime bien parce que les couplets sont limite plombants. Et le refrain, c'est un peu comme le trajet en vélo que je viens de faire, c'est-à-dire les couplets, c'est la pluie dans le visage et d'un coup il y a le rayon de soleil qui vient un peu tout sécher. Mes chansons préférées, j'ai remarqué que c'est un peu tout le temps le même type de progression, cette espèce de tension sur les couplets et le refrain où on a un peu envie de courir dans l'herbe. C'est comme en vrai comme les odeurs ou même les plats ou les choses comme ça. C'est vrai qu'il y a cette magie de réentendre une chanson, même par exemple un générique d'un dessin animé de quand on était enfant, ou c'est comme revoir un jouet McDo des années 90 où on est là, ah oui, enfin ça débloque des choses dans la tête. Et c'est vrai que moi, pour le coup, cette chanson, elle me fait vraiment repenser à cette intensité du premier amour où on a l'impression que si la personne elle quitte la pièce pendant 10 minutes, on va mourir. Et
vous faites partie de ces gens qui n'écoute pas des chansons tristes pour être moins triste. C'est l'inverse, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux teams.
Ça dépend en fait. Par exemple, quand parfois je suis super triste mais j'arrive pas trop à comprendre pourquoi et du coup je suis plutôt dans une espèce de sensation de danger, de genre oula, il faut pas trop que je m'enfonce là-dedans. Et par contre, si je me fais larguer un jour ou je sais pas quelqu'un meurt ou quelque chose de très frontal comme ça et de très sensé, et ben là je vais écouter de la musique triste sans problème. Enfin je sais pas, ouais, pour moi il y a la tristesse d'angoisse et la tristesse vraiment pure où du coup on a envie de tout lâcher. Quand je suis triste, j'aime pas du tout écouter Beyoncé ou Ariana Grande, ça contraste trop, ça vient trop me secouer.
Everybody's gotta learn sometimes, donc par Beck. C'était le choix de Pyjama. Je le redis, c'est en trois mots. Pyjama.
Et elle est en concert donc le 19 mars au Théâtre de la Ville. Le 18 au même endroit, ce sera la poétesse Suzanne Robalet qui propose une création inédite dans le cadre du même festival. Et donc le très bel album de Pyjama s'appelle Magnétophile.
Merci Julien Baldacchino et merci à toute l'équipe du 13-14 de cette semaine. Cécilia Arbona, Sonia Princef, Flore Catala, la rédaction en chef assistée de Victorien Thomas, Nicolas Sabat et Sylvain Lesage. Camille Poux-Jalaguier était à la programmation et à la technique. Ludovic Asselot, Arnaud Caillet, Victorien Thomas, je l'ai déjà dit, Nicolas Sabat et Sylvain Lesage. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour François Geffrier.
Quel est le menu de la Terre au carré?
Je reçois une agro-bifurqueuse. Mon invité au carré s'appelle Lola Kéraron dans un instant.
Une agro-bifurqueuse. Le club de la Terre au carré. Merci, à tout de suite.